Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
17h59, bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal, comme tous les vendredis. J'avais hâte de faire cette émission, encore plus que d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le football, dans mon football, dans ma passion cette semaine, et qui me taquinent vraiment. On va revenir dessus. Et pour revenir sur tous ces événements-là, bien sûr, François Pinet qui remplace Jean-Louis Tour.
Salut Jérôme.
Vacances. Salut François.
Salut à tous.
Ça va ?
Oui, ça va très bien. Une semaine qui devait être calme au départ. J'ai accepté de remplacer Jean-Louis, et puis finalement, il s'est passé 2-3 petits trucs dans l'actu.
Ah, bah ouais, 2-3, ouais. Il y a eu plein de choses à dire, ouais, ouais. On vous a écouté et j'ai participé aussi, oui, pas mal de débats, donc avec notre maître à tous,
j'ai
bien
entendu
sûr.
Déjà.
On l'a entendu toute cette semaine, on l'a entendu ruminer. Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Mi.
Salut Captain.
Bonjour à toutes et à tous. Tu vas me laisser parler, Jérôme, ou pas ?
Mais oui, je te dis bonsoir,
ah bon,
laisse-moi.
Bonjour.
Bah, tu
bonsoir.
Vas avoir le temps.
S'il avait succès, il y avait autant de problèmes, autant d'histoires. François, il serait resté calfeutré.
Mais non, mais tu rigoles. Moi, je vis pour ça. Moi, je vis pour ces actualités-là, pour sauver le football.
Tu peux faire ça, de
toute façon. On a quand même sauvé le football cette semaine. Hein.
La
c'est pas
Super
rien.
League, les Bordeaux et tout.
Ouais. Eh non, mais on avait peur de s'embêter un peu cette semaine. C'est vrai, pas de Ligue des Champions habituelle à Ligue des
Exactement.
Champions.
Ouais,
on a été servi.
C'est superbe. Et on va être encore servi ce soir. Dans 30 minutes, l'élève contre le maître. Captain Jérôme a envie de te parler de l'avenir de Florian Thauvin à Marseille. C'est l'heure pour lui de tourner la page de l'Olympique de Marseille. D'après Captain, on en parle dans 30 minutes. À 19h, comme tous les vendredis, le multiplex de Rotten Régal. Je sais que vous adorez ce moment. C'est pour lancer le week-end de Ligue 1 à venir. Un super week-end en plus avec le choc entre Lyon et Lille. On parlera aussi bien sûr de l'AS Monaco qui reste sur une série de victoires incroyables. Et on va revenir bien sûr tout de suite sur la situation catastrophique des Girondins de Bordeaux. Il est possible qu'on ne revive plus jamais ce genre de soirée. Souvenez-vous.
De Zidane qui allume Monsieur Kaka. Ouais, il est bon en pivot.
Dugarry.
Le but de Christophe Dugarry. Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface.
Allez.
Frappe et but. Oh, quel but. Super, là, là.
Les cotes n'étaient pas tellement en notre faveur. La saison, on l'a gâchée par la cote de plein de choses. Mais autant aller au bout et gagner cette coupe.
Moi, je suis bordelais. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. On a fait le match qu'il fallait, gagner 3-0 contre le Grand Milan. C'est exceptionnel. J'en reviens pas.
On s'en souvient de ce match et de ses commentaires.
Ouais.
Philippe Bruet, Michel Platini. Un Michel Platini complètement fou sur les buts bordelais.
Ouais.
Hein. C'était magnifique, Bordeaux-Milan 96. Évidemment, les Girondins de Bordeaux qui hier ont donc annoncé que King Street, l'actionnaire américain, se retirait et que le club était placé sous la protection du tribunal de commerce. Nicolas Paul Orsi, notre correspondant à Bordeaux, est avec nous. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous.
Alors, évidemment, on t'a eu beaucoup hier dans Top of the Foot. Aujourd'hui, un petit peu d'optimisme avec peut-être plusieurs options possibles, dont celle d'une reprise du club. Il y a plusieurs investisseurs qui se montrent intéressés.
Mais c'est ce qu'on disait hier, en fait, cette nouvelle. Alors bien sûr que c'est une nouvelle inquiétante parce que tu perds ton actionnaire majoritaire, tu perds l'actionnaire qui mettait 20-30 millions tous les 6 mois pour essayer de combler le déficit et de maintenir le club dans l'élite. Maintenant, on sait qu'il y avait des gros problèmes de gestion au sein de ce club. Et l'avantage avec cette annonce hier, c'est que pour les repreneurs, désormais, le club vaut 0 euro. Et donc maintenant, il va falloir mettre de l'argent en fonction de la dette.
Ouais, donc c'est pas zéro alors.
C'est pas zéro. Mais ce que je veux dire, Jérôme, c'est que à l'époque, quand tu négociais avec King Street pour essayer,
t'avais un montant avant de
t'avais
de parler
un montant
de la dette.
Et en plus, t'avais
ouais.
la dette
ouais.
et éventuellement le déficit
ouais.
derrière
ouais,
qui
ouais.
chaque saison augmente. Alors que là, désormais, ton club il vaut zéro. Donc on sait qu'il y a des candidats qui sont intéressés. Et le maire de Bordeaux qu'on a eu hier d'ailleurs dans Top of the Foot, mais qu'on a revu ce matin, nous a bien confirmé que il échangeait avec deux candidats sérieux.
Ouais, c'est ça.
Pierre Urmic, voilà.
Ouais.
Pierre Urmic, exactement. L'homme au sapin, c'est vrai, c'est pas mal. Ça lui va bien.
Ouais, ouais, ça lui va bien. Ouais.
Il va être content
ouais,
d'avoir.
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Et deux candidats, je vous le disais, donc Bruno Fievet qu'on a eu hier dans Top of the Foot et Pascal Rigaud qui est un entrepreneur bordelais, enfin qui est né en Gironde et qui a fait fortune aux États-Unis. Il a monté un concept de boulangerie à la française aux États-Unis et voilà, lui, il est intéressé par le club. Dans le projet de Pascal Rigaud, et c'est ce qu'a sorti il y a 3-4 mois nos confrères de Sud-Ouest. Il y a Stéphane Martin, l'ancien président du club, donc c'est un projet assez sérieux et ils essayent de vraiment monter quelque chose. Donc eux, ils pourraient monter au fond. Donc ça, c'est plutôt positif. Juste la deadline et le timing, parce qu'on sait qu'il va falloir que les repreneurs se positionnent assez vite, sinon le club risque pour le coup une rétrogradation. C'est pour ça qu'il va falloir se positionner assez vite. Dans ce genre de procédure, on dit que maximum ça va durer 3 mois. Dans le cas des Girondins de Bordeaux, ça pourrait s'accélérer parce que c'est un club historique du foot français et que c'est un dossier prioritaire pour le tribunal de commerce de Bordeaux. La mairie qui nous a dit tout à l'heure, et Pierre Urmic nous a dit, en tout cas nous, on va avoir un droit de regard et on sera très attentif. On va participer au choix du futur repreneur. Non, on veut que ça reste.
Ils sont gentils, la mairie. Les...
dans l'ancrage local.
Non, mais qu'est-ce que tu veux dire, Capitaine?
Ben c'est déjà qu'il en ait un, le maire. Qu'il au moins, s'il en a un qui mord à la meçon, un seul.
On ne va pas le contrarier.
Et bon, il aura le choix, le choix sera très facile. Mais vous imaginez, parce que chaque jour qui passe, je crois qu'on a commencé la semaine, on était entre 35 et 40 de dette.
Ouais.
On la termine à 80, hein.
Ouais, la dette, Capitaine. Déjà, Frédéric Longuepée, pour le coup, avait communiqué sur cette dette en janvier, quand il avait présenté ses vœux à la presse. Et déjà, ils avaient estimé ce chiffre entre 60 et 80. Mmh. Après, non, en fait, il y a deux choses bien distinctes. 60 et 80 millions, c'est le déficit. C'est ce que tu perds à la fin de chaque saison. La dette, c'est ce que tu dois rembourser à tes créanciers. En l'occurrence, King Street a emprunté de l'argent à Fortress, a emprunté 40 millions pour acheter le club, 40 millions avec des intérêts. Et donc, on chiffre cette dette autour de 50 millions. Mais le déficit est plus important. Il faut bien vraiment faire la distinction entre les deux choses.
D'accord. Donc, il y a la dette, on est d'accord qu'il y a la dette à rembourser et après, donc, il y a le déficit à rajouter.
Oui, mais tu peux racheter un club avec la dette et après et récupérer le déficit. Tu gères ton déficit. Bon, après, ton club sera endetté tous les ans, mais tu peux garder ton déficit. Donc, il faut après gérer ça avec la DNCG.
Non, mais moi, il y a quelque chose. Moi, je veux bien qu'on entende monsieur le maire. On l'a entendu hier dans Top of the Foot. Il n'y a pas de souci. Là, il donne encore son avis. Mais je pense qu'il se rend pas compte et c'est le ressenti qu'on avait hier avec Jean-Michel quand il a parlé. Il se rend pas compte de dans quel état est les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver aux Girondins de Bordeaux? Il y a des exemples, on les a cités hier. Bastia, Strasbourg, qui étaient des clubs historiques. Alors peut-être pas à la hauteur de Bordeaux, en effet. Où là, c'est une chape de plomb hein, qui tombe d'un seul coup comme ça. On s'y attendait pas, du moins à ce moment-là. On savait que ça allait pas très bien dans le club, mais je pense que monsieur le maire se rend pas compte du danger du club aujourd'hui.
Mais il n'est pas inquiet, hein. Il nous a dit qu'il n'était pas si inquiet
hier,
que ça.
On l'a senti. Mais comme disait, et c'est même pas moi qui le dis, c'est hier on a reçu un supporter des Girondins qui a parlé avec son cœur aussi et qui nous disait ce que le maire avait dit quand il avait pris ses fonctions sur l'équipe dirigeante des Girondins de Bordeaux, qu'il allait s'en occuper, tout ça. Il y a rien qui a changé. Au contraire, plus ça allait et plus il allait dans le sens de Frédéric Longuepée. Donc c'est dire que les supporters étaient aussi contrariés.
Mais le problème,
les écologistes aiment beaucoup le vent.
Le problème, Capitaine, c'est que les Girondins de Bordeaux, c'est une entreprise privée. La mairie n'a aucun droit de regard. Tu peux pas faire virer PDG d'une entreprise privée.
Nico, je veux bien que tu fasses pas. Mais il me semble qu'il joue dans un stade qui visiblement n'est pas tout à fait privé, non?
Mais ça, oui, alors c'est très compliqué le financement du stade. Mais oui, en effet, il y a des financements publics. T'as raison, il y a des financements publics.
Bon, alors ils sont hébergés chez le public, mais il faut rien leur dire. Bon, même s'ils paient la location, j'imagine.
Oui, très cher d'ailleurs. 3,7 millions l'année, la location du Matmut Atlantique.
Ah, bah, c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Lille, où à un moment donné, ça atteignait 7 millions d'euros. Donc, tu vois, c'était presque.
Il est deux fois plus petit, c'est pour ça.
Oui, presque un cadeau. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte aujourd'hui. J'en veux pour preuve, et je voudrais avoir une pensée aujourd'hui, là, à l'instant où je parle, pour Roland Romélier qui est pas bien. Qui
à Saint-Etienne.
À Saint-Etienne, qui a des problèmes de santé.
Ah, on l'embrasse.
Saint-Etienne a présenté des bilan financier au cours des 15 dernières années positif. Cette année, le club est en vente à 20 millions. D'accord ? Pour l'instant, personne ne s'est manifesté.
Alors,
donc, comment voulez-vous qu'un club... Moi, je veux bien, mais qu'un club qui en a 80 ouais. sous le coude et qui, tous les ans, en perd 30, intéresse les gens. Moi, je veux bien. Je souhaite le
Après,
meilleur.
Après, Bordeaux, ça peut être une marque par rapport à la ville, la situation de la ville,
l'histoire du club.
Tu n'as pas le droit de faire de la pub avec le vin.
Bon, en tout cas, on verra si ces investisseurs vont sortir du
bois. Et juste, François, toute petite info, très court, mais Pierre Urmic a aussi évoqué, le maire, la possibilité d'un système de sociaux, un peu comme comme à Bastia,
l'a
fait.
Voilà,
avec des supporters qui rentreraient au capital du club, il a dit qu'eux, ils réfléchissaient à ça, que ça pouvait être une éventualité.
Quand t'as 1 million ou 2 millions d'euros de coup, ça va, quand t'as la 80...
Quand t'as la 80, je suis pas sûr que...
Je sais pas.
Il va falloir en faire rentrer beaucoup, ces supporters.
Ah oui.
Merci beaucoup Nico.
On te retrouve à 19h. Salut Nico. À tout à l'heure. Pour le multiplex.
On va parler du match quand même. Lorient-Bordeaux, parce qu'il y a un enjeu aussi sportif très important pour les Bordelais. On en parlera avec toi Nico dans un instant. Je voulais vous faire écouter deux réactions au sujet de Bordeaux. D'abord celle de Christophe Dugarry, qui était de retour sur RMC hier, pas pour une malheureusement une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Écoutez ce qu'il pense de King Street et des actionnaires qui ont quitté Bordeaux.
C'était inévitable. On le savait. Maintenant, bon. C'est des ordures, les types qui étaient à la tête du club, on le savait, on l'a dit et redit depuis des mois. Voilà, écoutez, longue épée va dégager, c'est ce qu'on attendait tous. Voilà, je pense qu'il va y avoir des repreneurs. Il va y avoir des gens qui vont reprendre le club. J'espère que ce club va retrouver son identité, son âme. Les gens qui étaient aux manettes depuis maintenant, ça va faire 2 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils ont tout fait pour couler le club avec des décisions qui ont été pratiquement toutes mauvaises, entre les conflits, le conflit avec les supporters, les joueurs surpayés, les mauvais choix stratégiques. Voilà, il faut que tout ce beau monde-là dégage et surtout ne revienne plus dans le football.
Voilà, ça c'était la réaction de Christophe Dugarry que l'on a eu hier dans Top of the Foot. Autre réaction aujourd'hui, Zinedine Zidane à Madrid, avant le match du Real Madrid. Il a été interrogé sur son ancien club par un confrère français et il apporte son soutien aux Girondins de Bordeaux.
Ça me laisse pas du tout indifférent, et bien au contraire. Et c'est vrai que la situation n'est pas agréable. Moi, comme ancien Girondin, ce club m'a apporté tellement de choses que oui, je suis et j'ai parlé avec des gens à Bordeaux et j'espère que la situation va bientôt s'arranger à tous les niveaux en tous les cas et total soutien à ce club de cœur. Et voilà, et je serai toujours derrière de toute façon les Girondins de Bordeaux, ça c'est clair et net.
Zinedine Zidane qui n'a pas hésité à parler des Girondins de Bordeaux.
Non, mais c'est bien de pas.
On l'a critiqué cette semaine pour ne pas avoir donné son avis sur la Super League.
Il aurait pu greffer ce discours-là et on va peut-être faire un montage où, au lieu de parler des Girondins de Bordeaux, on greffe ça, on met la Ligue des
Champions à la place des Girondins de Bordeaux.
Parce que c'est exactement les mêmes phrases qu'on attendait de sa part. Mais c'est bien qu'ils soutiennent. De toute façon, je pense que ce club, et moi j'y ai pas joué dans ce club, mais tu sens qu'il a marqué les joueurs qui y sont passés, toutes les générations confondues, celles qui ont gagné, celles qui ont moins gagné. Tu sens qu'il y a un vrai soutien parce que c'est un club historique. Moi j'ai grandi avec ce club-là. Je suis tombé amoureux du foot parce qu'il y avait Bordeaux aussi qui existait dans le paysage du football français. Et que moi ça me contrarie quand je te parlais dans le sommaire là, quand je présentais l'émission, que la semaine a été difficile, que ça soit cette Ligue des Champions, du moins cette Super League, plus derrière les Girondins de Bordeaux. Ouais, moi je suis passionné, c'est mon sport, j'ai envie de le protéger. Et moi, ça m'embête de voir des clubs dans cette situation-là. C'est une situation dramatique. J'espère de tout cœur que ça va s'arranger, qu'ils trouveront une solution. Mais je suis pas si optimiste que ça, comme certains peuvent le dire.
On voudrait élargir un petit peu.
Ce n'est pas le premier d'une longue
série. Justement, on voudrait élargir le débat sur ça, Captain. King Street qui explique son retrait. On l'a lu dans le communiqué par la situation catastrophique avec la pandémie, évidemment, le fiasco Media Pro. D'autres clubs peuvent peut-être s'inquiéter au vu de cette situation économique. Est-ce que l'exemple bordelais doit alarmer le foot français? Voilà les questions qu'on vous pose. N'hésitez pas, le 32-16 pour réagir. C'est vrai qu'on a l'impression que Bordeaux peut être le premier d'une longue série.
Oui, j'espère pas. Mais en tout cas, les fonds d'investissement, on se rend compte, là, on l'a vu, que de toute façon, l'intérêt d'un club, l'histoire d'un club, ils en ont rien à carrer. Ils sont là pour faire de l'argent. Ça, on le sait très bien. Hein, quand tu vends à ces fonds-là, ils sont pas là pour perdre de l'argent et pour faire plaisir aux supporters. La preuve, concret à Bordeaux, où c'est Christophe, du gars qui nous racontait que de A à Z, ils ont fait tout à l'envers. Oui, parce que le problème de ces fonds-là, c'est déjà, tu sais pas, quand ils décident de se retirer, quand ils perdent de l'argent, comme dit Jean-Michel. Donc, ça peut arriver du jour au lendemain. L'exemple concret de Bordeaux hier. Ils te pompent ça, ils s'en foutent du match de ce week-end qui est important, la saison qui est pas encore finie. Non, ils ont décidé, voilà, ils te l'annoncent. Donc ça veut dire vraiment que la stratégie, elle peut être dure aussi avec d'autres clubs qui sont de ce côté-là. Et puis après, il y a surtout comment ils s'encadrent, à qui ils font confiance sportivement. Ça a été une catastrophe de A à Z à Bordeaux. De A à Z, ils se sont trompés sur toute la ligne. Donc aujourd'hui, c'est l'effet boomerang. Ils prennent tout dans la tronche. Et en effet, alors j'espère pas que ça va arriver à d'autres clubs qui sont aujourd'hui avec des fonds d'investissement. Mais voilà, la pandémie, ce qu'on est en train de vivre actuellement, les droits télé, les trucs, il y a beaucoup de pertes dans beaucoup de clubs.
Mais au-delà des fonds d'investissement, il y a des gros problèmes financiers dans beaucoup de clubs. Droits Saint-Étienne, évidemment. Tout ce qui est lié aux droits télé, puisque je regardais justement les droits télé dans le budget des clubs la saison dernière. Pour Bordeaux, c'était plus de 60% du budget du club, les droits télé. Angers, c'est 68%. Par exemple, Lille, c'est 62%. Et c'est plus de 50% à Nantes, 57% pour Saint-Étienne.
Non, mais il faut des mecs
qui sont liés aux droits télé.
Avant de laisser la parole à Jean-Michel, il faut des mecs passionnés dans le foot. C'est ce qu'on réclame. Il faut. Alors, je veux bien que ceux qui ont l'argent, c'est pas forcément des gens qui sont hyper passionnés, hyper connaisseurs. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum quand on investit dans un club pour faire vivre un club, faire confiance à des personnes qui sont là, qui sont du milieu du foot. Eh ben, il faut au moins t'intéresser un minimum. Tu vois, moi, McCourt, il fait des bonnes choses, du moins des bonnes choses. Il en a fait des bonnes et des moins bonnes à Marseille. Il n'a pas fait que du négatif, on est d'accord. Mais McCourt, le football, on s'en rend compte, il n'en a rien à carrer. Et comme d'autres, et ça, c'est un problème. Je pense que le football français doit être plus regardant de qui devient propriétaire d'un club. Il n'y a pas que l'aspect financier. L'exemple type qu'on doit mettre en avant, c'est les droits télé. Aveuglé avec le milliard. Aveuglé. Tout le monde a été aveuglé. Ils sont tous tombés dans la nasse et aujourd'hui ils essayent de s'en sortir. Et je dis on parce que je suis avec eux. On essaye de s'en sortir financièrement. Et ben les propriétaires des clubs, quand les clubs sont à vendre, il faut aussi qu'ils mettent ça en avant. Il faut avoir un regard différent.
Et non, encore, mais quand ils sont à vendre, en général, c'est que ils sont déjà à l'agonie et qu'ils sont déjà donc ils vendent au plus offrant au premier. Mais les signaux d'alerte qu'il y a eu sur le foot français, personne n'en a tenu compte. Hein. Je sais pas, j'ai pas été cherché parce que ça m'intéresse qu'à moitié là-dessus. Mais vous rappelez qu'il y avait du côté de Sochaux, il y a bien eu un fonds chinois.
Oui, propriétaire chinois. Bah, c'est parti en vrille.
Et Dieu sait si du côté de Sochaux et de la famille Peugeot qui était carré dans qui était carré, ils ont quand même cédé au sifflement des sirènes. Voilà, ils y sont allés. Ça vous a pas interpellé quand même la façon dont en deux coups de cuillère à peau du jour au lendemain, monsieur Lopez et son fonds d'investissement sont partis de Lille pour laisser la place à un autre président? Je pense que de toute façon il devait y avoir des problèmes. C'est pas possible.
On le sait, que c'était parce qu'il y avait une grosse dette qu'il fallait absolument rembourser et qu'il y avait beaucoup trop d'argent.
C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est dans un football qui est champion du monde. Et vous connaissez la fable, là, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Je pense qu'il faudrait que ces fonds d'investissement qui réussissent en Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est une autre planète.
Mais ils résistent pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent, Jean-Michel.
Mais bien sûr. Il y a plus d'argent, il y a plus de passion, il y a plus de supporters.
On ne peut pas adapter ça à la France. Effectivement.
Mais absolument pas. Ouais. Et j'espère, j'ose espérer qu'enfin, on saura tirer la leçon. J'en suis pas sûr.
Allez.
Mais bon,
On va essayer justement.
Le drame est tellement important qu'on va quand même. On va pas laisser toutes les plumes, non ?
Non, on va essayer justement de trouver des solutions. On est là pour ça dans Rotten Régal. Hein. Pourquoi pas ? Il faut un grand changement du côté du football français.
Moi, je peux pas.
On
moi,
continue
je peux
d'en
pas,
parler avec Captain, avec Jérôme, bien sûr.
Peut-être avec Jérôme.
Et avec vous, 32-16.
T'as pas voulu prendre la Fédé.
Restez avec nous. Ah. On continue à en parler.
Pour toi.
RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme
Rotten. 18h20, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, avec François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. Allez François, on continue avec les Girondins de Bordeaux. On va échanger avec des auditeurs.
Bien sûr, dans 15 minutes, n'oubliez pas l'élève contre le maître. Au cœur du débat ce soir, c'est l'avenir de Thauvin à l'Olympique de Marseille. Avant de prendre Vincent au 32-16, je vous donne une petite info concernant les Girondins de Bordeaux. On retrouvera Nico Paolorsi à 19h dans le multiplex, mais ils sont actuellement à côté de Lorient, à Pleumeur, pour préparer le match de dimanche contre Lorient.
Oui.
Et d'après Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne, les joueurs ont appris la nouvelle hier de la voix d'Alain Roche, le directeur sportif. Et ce matin, il y avait Johan Gourcuff qui habite Pleumeur maintenant pour accueillir les joueurs. Et Jean-Louis Gasset, on les a vus d'ailleurs se serrer dans les bras puisqu'ils s'étaient côtoyés lors du titre bordelais en 2009. Gasset était l'adjoint de Blanc à l'époque. Présent également le président Frédéric Longuépé.
Tu vois que c'est quand même dramatique pour les joueurs. Je me mets dans la peau des joueurs. T'imagines que tu l'apprends la veille d'un match comme ça, t'es en stage par la voix de ton directeur sportif, mais quel manque de respect quand Christophe Dugas disait hier que ce sont des ordures vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait là. Mais pour dire qu'ils ont aucune classe, aucun respect,
ils ont peut-être même pas regardé le classement de toute façon.
Non, mais c'est quand même
pas s'ils sont
et
courants.
C'est pour ça, tu vois, c'est mais et puis que tu t'entends Longuépé qui te dit moi je vais rester, mais qu'est-ce que tu
alors il reste jusqu'à ce que Bordeaux change de
mais il aurait dû mais du de la minute où il reçoit le mail de King Street qui se retire, mais barre-toi. Tous les gens attendent que ça. Qu'est-ce il reste quoi faire en fait? Quoi faire? Dites-moi pourquoi il reste.
Il faut bien qu'il y ait un président, les affaires courantes.
Mais un président aujourd'hui le président il sert plus à rien aujourd'hui. Excuse-moi.
Il va bien dire.
C'est lui qui va rechercher un investisseur.
Des affaires, non ?
Non, c'est le mandataire qui doit chercher un investisseur.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Je ne sais pas. En tout cas, on va demander à Vincent.
Tu crois qu'il va signer l'échec ?
Bah, je sais pas. Il y a des salaires à verser encore.
Non, mais
en tout cas.
C'est incroyable. Incroyable.
Vincent a fait le 32-16, supporter des Girondins de Bordeaux dans Rotten Régal.
Salut Vincent.
Bonsoir.
Salut Vincent.
Alors, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone, vu vos carrières footballistiques.
Merci, c'est gentil.
Merci, je te remercie.
C'est gentil. François est flatté.
Ouais, franchement, vraiment. C'est une belle carrière.
Bon, Vincent, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles, et tu le sais très bien, à mon avis, moral est atteint, non?
Oui, j'ai appris sur RMC, j'écoutais à la radio et quand j'entends quand j'ai entendu ça, je suis tombé des nues, même si franchement ça nous pendait au nez vu ceux qui sont à la tête depuis du coup maintenant 2 ans. Malheureusement, je pense que ça nous pendait au nez, mais je m'y attendais quand même pas là maintenant tout de suite qu'ils allaient partir comme ça, c'est comme si on n'était rien en fait. Ils ont dit bon, nous on part, hein, c'est bon. Ils pensent au futur pour nous, rien du tout.
Bah, c'est pour ça que tu peux. Alors même si en effet tout n'était pas au beau fixe, c'est loin d'être le cas, c'est sûr. On l'a vu avec les supporters des Girondins de Bordeaux qui allument souvent la direction. Mais tu peux pas t'attendre à ce moment-là à cette crise-là. On pouvait s'attendre à une revente du club. Au pire, ils cherchaient, d'accord. Mais de baisser les armes comme ça, de dire bon bah écoutez, maintenant vous démerdez, nous on payera pas. Forcément, tu peux être que surpris de ce côté-là. Et t'as peur pour l'histoire de ton club, quand même, pour la suite de ton club.
Ah, totalement. Même si j'entends que voilà, il peut y avoir des repreneurs, mais ça se trouve, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Donc ça se trouve, peut-être qu'on n'arrivera jamais à se relever de ça. Donc oui, j'ai extrêmement peur pour le club. J'ai pas envie devenir comme les anciens clubs qui ont disparu un peu du foot français. Manière de ce que vous avez cité avant, je suis désabusé. Effectivement, j'ai extrêmement peur.
Alors quand on entend le maire Pierre Urmic qui dit il faut que les supporters se regroupent, pourquoi pas une assemblée de supporters un peu à la mode socios.
Tu vas arrêter de nous parler du maire, tu fais clair quoi. On t'a dit avec Jean-Michel, on veut pas l'entendre.
Je demande à Vincent qui est supporter.
Ah ouais, en sachant quand même.
Mais je veux pas parler politique. Je parle de Vincent qui est supporter.
En sachant Vincent et Vincent le sait mieux que quiconque, en sachant quand même que lorsque les supporters ont tiré la sonnette d'alarme, ils défilaient avec eux. Et que 6 mois plus tard, ils leur disaient « Mais non, finalement, Longuepé, c'est un mec formidable. » Enfin, dites-moi, il doit avoir la doublure de la veste dans un drôle d'état, non, me semble-t-il. Parce que pour retourner sa veste,
moi, c'est de toute façon, après l'histoire du sapin, je lui ai jamais pardonné.
Voilà. Bref, l'histoire
plus
du sapin,
le foot,
c'est
alors là, imagine.
Non, ça sentait le sapin, en revanche, pour les Girondins de Bordeaux.
Ah, bravo. Bravo.
Bon, il était facile. Vincent, non, mais je reviens quand même sur cette question, sur une histoire de socios à Bordeaux. Ça peut-être tenter les supporters bordelais.
S'ils ont bronzé, oui.
Bon, après, faut voir comment ça marche exactement. J'avoue, je sais pas, je connais pas.
Il faudra mettre un peu d'argent.
Mais je pense que c'est limite qu'il faudrait, parce que voilà, vous avez dit les ultras, ça fait les supporters, et ça fait un moment depuis quasiment que King Street est arrivé qu'ils ont dit que c'était bancal. Donc on se rend compte du coup quasiment qu'ils avaient raison depuis le début. Après, même si je pense que tous les supporters n'en doutaient pas beaucoup. Et effectivement, quand après, c'est vrai que là, vous parliez du maire. Il dit qu'il mettait sa tête dedans.
Bon, là, il est obligé de le faire.
Pour calmer François, les supporters aujourd'hui, ils s'étaient regroupés lors de leur première manifestation à 3000, d'accord? Et ce qui veut dire que pour éponger les 80 millions d'euros, il faudrait qu'ils versent chacun 300 000 euros. Ah. 266,666 euros.
C'est un peu beaucoup d'argent.
Ouais, ça fait,
Bordeaux
fait
est une ville de riches, mais quand même.
Il faudrait
faudrait que les 3 000 versent deux. Mais arrête de les faire rêver. Quand tu parles d'une solution avancée par quelqu'un qui n'a même pas fait le calcul, divisé 80 millions par le nombre de supporters.
C'est prendre l'exemple avec les clubs qui ont mis ça en place. En l'occurrence, ils nous citent Bastia. Mais Bastia, il faut savoir que déjà, ils sont repartis de la Nationale 3. Ouais. Donc le club était pour zéro. Et qu'il n'y avait plus de déficit. C'est qu'aujourd'hui, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de déficit. Un supporter qui investit dans un club, du moins les groupes de supporters qui investissent dans un club, il faut au moins que tu arrives à zéro. Tu peux pas te permettre tous les ans de perdre, comme on dit, un déficit de 70 millions d'euros tous les ans. Mais le supporter, il va faire quoi là-dedans?
Allez, on remercie Vincent. Vincent qui, pour la première fois, est passé dans une émission de sport sur RMC. Hein. Merci Vincent. Merci beaucoup. Dans un instant, le duel Captel face à Jérôme autour de
Derby contre Libourne.
Lorient Thauvin. On va parler de l'Olympique de Marseille. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
18h32, toujours dans Roten Régal. Allez, pour cette dernière demi-heure de la première heure, François Pinet, Jean-Michel Larquet. On va maintenant, c'est l'élève contre le maître.
Oui, c'est ça.
Il veut m'affronter.
Comme d'habitude.
C'est même pas un affrontement parce que je pense qu'on
n'est pas loin de.
Florian Thauvin.
On va en parler dans un instant.
Il y a la présentation du journal moyen.
Et dans 15 minutes, c'est le journal moyen avec Morgane Maury. Salut, Morgane.
Salut, Roten Régal.
J'ai entendu que
vous avez. Cédé au sifflement des sirènes, quelque chose comme ça.
Mais j'ai dit les sifflements, oui. Ah. J'arrivais pas à trouver.
On en reparlera.
Les sirènes.
On en reparlera dans le journal moyen de Roten Régal. Les pensées de Manu Petit, et on va aller au plus profond du cerveau.
Pour les sirènes. Elle remue la queue pour appeler le matelot. C'était quoi exactement?
Non, au lieu de céder aux sirènes, tu as cédé au sifflement des sirènes, Jean-Michel. Donc les pensées de Manu Petit.
Elle faisait beaucoup de bruit.
Bon, tu le laisses présenter son journal moyen.
On ne sait pas ce qu'il y a dans le journal moyen pour l'instant.
Vas-y Morgane, vas-y, impose-toi.
Les pensées de Manu Petit, on va aller au plus profond du cerveau de Roland Courbis. Prenez vos calculettes, c'est très compliqué, mais pour Roland, c'était très clair.
Ok, très bien. Ça sera dans 15 minutes, bien sûr. Merci Morgane, à tout à l'heure. Tout de suite, Jérôme face à Captain, c'est l'affrontement.
RMC.
Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Excusez-moi, mais qui êtes-vous?
C'est un jeune coq avec une vieille poupe.
Non, c'est Jean-Michel.
Le maître contre l'élève.
On est déjà dans le quiz, alors.
Non, pas encore. Le quiz, c'est à 19h45. N'oubliez pas ce grand moment. Florian Thauvin est en fin de contrat. Hier, en conférence de presse, Sampaoli, ton ami Sampaoli, capitaine, a encore expliqué qu'il aimerait que son joueur continue avec le projet marseillais la saison prochaine. Mais pour toi, capitaine, Thauvin doit pas rester à l'OM, c'est ça?
Je crois qu'il est temps qu'il s'en aille. Rien ne plaide pour qu'il reste, parce que d'abord, il a fait tout ce qu'il pouvait à l'Olympique de Marseille. Certes, il y a eu une longue période de blessure, mais lorsqu'il était en état de jouer, il a été parmi les meilleurs passeurs. Il a été toujours parmi les meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur de l'OM. C'était toujours entre 15 et 20 buts par saison. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce garçon-là ne peut pas rester à l'OM avec tout ce qu'il a fait sans succès. Sans succès aujourd'hui, qu'on va dire de manière collective. Et en plus, je pense que sur le plan individuel, il commence à perdre ses distances. Perdre ses distances notamment avec l'équipe de France. N'oublions pas qu'il était dans le groupe de la Coupe du Monde.
Oui, il est champion du monde. Hein.
Et qu'aujourd'hui, plein de latéraux offensifs, des milieux de terrain offensifs, lui sont passés devant. Évidemment, Coman, évidemment,
Dembélé.
Évidemment, Mbappé quand il joue sur un côté en équipe de France. Donc, je pense qu'il est en train de se perdre à l'Olympique de Marseille. Et puis essayer de rabibocher un vestiaire à partir du moment, et on le sait très bien, et Jérôme le sait aussi bien que quiconque, c'est que quand tu n'as pas d'atome crochu avec certains joueurs, tu peux faire semblant un peu, tu peux faire semblant une fin de saison, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les 5 matchs qui restent à jouer. Mais la vie entre Payet et Thauvin ne peut pas être un long fleuve tranquille. La vie entre Thauvin et certains de ses coéquipiers, on a vu un accrochage, même s'ils l'ont tourné en dérision avec Alvaro, ça ne peut pas être non plus un long fleuve tranquille. Donc je pense qu'il doit s'en aller. Il a d'énormes avantages. Un, il est libre. Deux, et là je me tourne vers Jérôme, un attaquant gaucher qui marque des buts dans une saison, je suis sûr que contrairement aux acheteurs des Girondins de Bordeaux, lui, il aura beaucoup de propositions. Donc je pense que pour son bien, pour redonner un élan à sa carrière, il serait bien qu'il tourne à la page de l'Olympique de Marseille et qu'il s'en aille du club. On ne sait pas pour où, oui. On ne sait pas pour quel championnat, mais je pense qu'il ne manquera pas de propositions.
Jérôme.
Ouais, non, mais moi je suis sur la même lignée que je l'ai déjà dit, hein, que Jean-Michel. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément en contradiction. La seule chose qu'on peut mettre en avant que Jean-Michel n'a pas mise, c'est que Flo, il a quand même marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a mis beaucoup de buts, il a donné beaucoup de balles décisives, il a souvent été là dans les moments clés du club aussi ces dernières années. Avant sa blessure l'année dernière, bah c'est vrai qu'on pouvait pas lui reprocher grand-chose. Il s'était vraiment investi parce que c'est son club de cœur, et ça je le sais parce que Flo est mon ami. Donc il s'est accroché à ce club, même dans des choses par moment qui étaient désagréables, dans la renégociation de son contrat par exemple, où il n'a pas vu la prolongation arriver quand elle devait arriver. Aujourd'hui il se retrouve en fin de contrat, en effet. Et moi je suis pas dans sa tête, en fait. Je sais pas ce qu'il a au fond de lui. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui nous rassemble de ce côté-là, c'est moi l'histoire que j'ai vécue au Paris Saint-Germain pendant 6 ans, le déchirement de partir, même si c'était mon choix, mais c'est toujours un déchirement quand tu pars de ton club de cœur, un club où t'as toujours rêvé de jouer quand t'as commencé à jouer au football quand t'étais jeune. Donc j'imagine que pour lui c'est un gros bouleversement de refuser ces prolongations de contrat qui sont arrivées au mois de décembre par exemple. tardivement, certes, mais elle est quand même arrivée. Il l'a pas signé, donc c'est au fond de lui. Il sait aussi, même s'il y a eu changement d'entraîneur aujourd'hui et que le discours de Sampaoli est peut-être rafraîchissant pour lui aussi, mais en effet, il y a un élément qu'on peut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effectif qui est comme ça, que vu les finances de l'Olympique de Marseille, cet effectif-là, il va pas changer aux trois quarts, c'est pas possible.
Il y a grande... il peut changer, mais pas oui, s'améliorer.
Mais il peut changer, mais une grande majorité des joueurs seront encore là l'année prochaine. Et que, en effet, pour évoluer à un bon niveau, et encore plus quand t'es à Marseille, je pense que t'as besoin d'un collectif fort. Et aujourd'hui, ce qu'on a ressenti entre Payet et Thauvin, qui sont les deux joueurs phares de cette équipe, quand tu vois, même s'ils ont déjà évolué à un très bon niveau ensemble, hein, ils arrivent à mettre ça de côté. Ils l'ont souvent fait, hein, depuis le retour de Flo d'Angleterre et de Payet à West Ham. Ouais. Je pense qu'ils ont réussi à mettre leur animosité de côté. Mais là, c'est aller trop loin. Et que repartir sur une autre année avec ces deux joueurs-là, je pense que le club doit faire un choix. Donc, apparemment, Sampaoli a décidé, et il le dit en conférence de presse, de vouloir garder Flo Thauvin. Ça doit lui faire plaisir, en effet, de voir qu'un entraîneur veut aller plus loin avec lui. Ok, sauf que qu'est-ce qu'on fait de Payet ? Parce qu'aujourd'hui, Dimitri Payet, moi, je veux bien qu'il soit revenu en forme, que ça aille mieux. Bien sûr que quand il est affûté comme il l'est depuis quelques matchs, bien sûr que il a quelque chose dans
ça
le
va
pied.
Revenir, hein.
Il a
ça
quelque
va.
Chose dans le pied, tout ça. Mais son manque de professionnalisme, son manque d'investissement dans ce club, même en termes de communication. L'année galère que Marseille a subi, tu peux pas l'effacer comme ça d'un cloquement de doigts en disant ah bah là maintenant on est au mois d'avril, il a préparé le sculpte du corps, tu vois, il l'a préparé pour l'été. Au bord de la piscine, il va être bien, il va être affûté. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas manquer de professionnalisme comme ça. Et pour moi, le club doit trancher dans le vif. Déjà sur Payet, et pourquoi pas sur Thauvin. Thauvin, c'est pas la priorité aujourd'hui parce qu'ils veulent le garder. Mais encore une fois, je te dis, je suis pas dans sa tête. Mais vu qu'il avait plein de choses, lui, dans son cerveau depuis un bon bout de temps, je vois pas comment ça peut être effacé juste avec l'arrivée de Sampaoli.
Jérôme, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans son entourage proche, dans ceux qui s'occupent de ses affaires, c'est pas possible qu'un joueur, un attaquant, pied gauche, offensif, marquant 15 buts, 20 buts dans une saison, n'ait pas eu déjà des propositions. Donc,
et je pense que ça traîne vu le contexte, Jean-Michel, malheureusement.
Il y a plusieurs clubs je pense que, dont on parle,
non, mais,
Milan,
non, mais entre les clubs qui sortent et les vraies propositions que tu as, oui. Je pense qu'en effet, et c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Et je sais pas du tout les contacts qu'il a. À mon avis, il a aussi un plan de carrière après Marseille. Il s'est dit, bon, bah, Marseille, j'ai fait mon temps. Je veux partir. S'il a refusé la prolongation de contrat au mois de décembre, c'est bien ça. Dans sa tête, il avait ça. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être qu'en effet, les propositions que lui estimait être des bonnes propositions à l'étranger, elles ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il a des propositions d'autres clubs. Parce que je suis d'accord avec Jean-Michel. Je pense qu'il y a des clubs qui peuvent investir sur Flo Thauvin, sachant que ça coûte zéro, il y aura que le salaire à donner et une prime à la signature. Mais est-ce que les clubs vont satisfaire Flo dans leurs ambitions? Il a 28 ans.
Il aura 29 ans.
Il a encore des belles années devant lui.
Alors,
quand même.
Je voudrais prendre Frédéric quand même, capitaine. Je voudrais prendre Frédéric qui est supporter de l'Olympique de Marseille et qui a 32-16 pour parler de Thauvin.
Bien sûr, Frédéric.
Salut Frédéric. Non. Salut Frédéric.
Salut Fred, c'est à toi.
Je vous écoute là.
Ouais.
Ça veut dire qu'on peut aimer Thauvin, on peut ne pas aimer Payet, tout à fait d'accord. C'est vrai que Payet, c'est un manque de professionnalisme. Le talent, il a, ça, on le sait, ça, personne ne peut le nier.
Bien sûr.
D'ailleurs, je pense que s'il avait été affûté physiquement et s'il avait une autre mentalité, il n'aurait jamais joué à l'Olympique de Marseille, mais il aurait peut-être joué à Barcelone ou au Real Madrid, parce que le talent, il est, hein. Techniquement, je ne vois pas un joueur même plus fort que lui actuellement en français. Hein. Techniquement, pur, hein, ça veut dire ce qu'il fait avec un ballon. C'est incroyable. Bon, pour ce qui est de Thauvin, moi, ce qui me gêne sur Thauvin, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas un super joueur, on est d'accord.
C'est vrai.
Il va peut-être payer comme un super. C'est pas un super, c'est un très bon joueur. Et il y a une chose qui me gêne chez lui, si vous préférez, c'est que Thauvin, j'ai remarqué une chose, les avançants ne brillent très rarement à côté de Thauvin. Pourquoi? Parce que 3 fois sur 4, Thauvin, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre vers l'intérieur pour enrouler et pour essayer de marquer, et il sert pas tant que ça l'avant-centre. Et regardez le nombre de ballons qu'a mis, c'est pas extraordinaire. Hein. Et ça me gêne. Et il y a une autre chose, ou là, alors, c'est Jean-Michel, qui me fait bondir, quand j'entends dire, oui, mais Thauvin, il s'entend pas avec Payet, donc ils devront partir. Mais dans tous les clubs, ça a toujours existé des gens qui s'aiment pas spécialement, mais qui sont sur un terrain pour jouer. Même à l'époque du Grand Thauvin, il y avait des gens qui qui ne s'appréciaient pas spécialement, mais une fois qu'on était sur le terrain, eh ben, on jouait, on avait pas mal de restaurants ensemble, mais ça ne pense pas qu'on peut jouer ensemble.
Il y a ne pas aller au resto, il y a comme disait l'autre, ne pas partir en vacances ensemble. Il y a comme disait l'autre, ne pas aller au restaurant ensemble à tout bout de champ. Et puis il y a avoir une véritable jalousie, animosité, ouais. Ce qui est le cas là. On est Frédéric. Et quand tu me parles des lacunes de Thauvin aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de l'OM?
Bah c'est lui, même passeur, hein.
Frédéric, qui est le meilleur passeur?
Attends, parce
de
qu'on l'avait coupé, Frédéric.
Ouais, Jean-Michel, j'ai Frédéric, pas dit qu'il n'était pas bon, j'ai pas dit qu'il avait des lacunes.
Non, mais tu m'as dit, tu m'as dit qu'il venait. Non, tu m'as dit un truc que je n'aime pas et que disent les consultants, les mauvais commentateurs, quand ils disent il rentre à l'intérieur. Oui, il rentre à l'intérieur, il va pas rentrer à l'extérieur, Frédéric.
Ça, non, on est d'accord, c'est, ça va, ça c'est un truc.
Frédéric,
moi je la fais pas, c'est la jeune chaîne.
Frédéric. Bon, Frédéric, une fois que je t'ai taclé, allez, je te dis simplement qu'aujourd'hui, ce garçon-là, il va avoir des propositions et ce garçon-là est un joueur de qualité qui ne peut pas continuer à Marseille parce que il ne progressera plus à Marseille.
Ok.
Il ne progressera pas.
Allez Frédéric, on est obligé de te laisser. Merci beaucoup Frédéric d'être passé dans Rotten Régal. Tu reviens quand tu veux évidemment sur RMC pour parler de Thauvin, pour parler de Payet, pour parler de l'OM. On revient tout de suite nous avec le journal moyen de Morgan Mori. On va aller dans la tête d'Emmanuel Petit et de Roland Courbis. Ça ne pas rater.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, bien sûr, toujours dans Rotten Régal. Allez, on finit la première heure, oui, avec le journal moyen, Morgan Mori, on attend ça.
Au sommaire du journal moyen de Rotten Régal, les calculs de Roland Courbis sur l'âge de Neymar d'ici sa fin de contrat. Attention, ça va faire chauffer vos ménages. Les pensées et les expressions mal employées de Manu Petit. Jérôme, François, je vous ai aussi noté pour ce journal moyen. C'est parti pour le journal moyen de Rotten Régal.
On est dedans. En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Rotten Régal.
Toute cette semaine, vous avez fait plaisir avec vos auditeurs, avec beaucoup de petites phrases qui ont fait mouche, mais une phrase, une pensée même a retenu mon attention, c'est celle du plus grand d'entre nous, Emmanuel Petit. La Super League, ça l'a énormément inspiré, Manu.
Ah oui.
Et quand on se retournera sur cet épisode, il restera au moins une phrase, ce sera certainement la phrase de Manu.
Le souci, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, que ça fait un petit moment et que dans ce chemin-là, sur cette autoroute, j'ai l'impression que bah, y a personne pour mettre un péage, en fait.
Et bam, voilà, merci Manu.
L'autoroute et le péage.
Il a tout résumé. Manu, ouais, il connaît les expressions de la langue française et il connaît la mécanique. Il a de la chance. Manu Petit, deuxième.
Il faut qu'on mette les doigts dans la prise pour savoir que le courant fait mal, quoi. Alors que tout le monde sait que ça fait mal. Mais le problème, c'est qu'il faut être confronté à la situation pour réagir. C'est toujours pareil, quoi. Il faut toujours qu'on nous mette le nez dans le cambouis, pour d'un seul coup, les gens réagissent.
Eh non, Manu, on met les mains dans le cambouis.
Le nez dans le cambouis.
Tu mets le nez, après, il est sale.
Moi, je ne peux plus là, parce que...
Le nez dans le cambouis, tu peux rester bloqué.
Avec mon sifflement des sirènes, je ne peux plus rien dire.
Tu ne peux plus te poquer, là. François.
François, non. Qu'est-ce qu'il a fait?
François, c'est ton tour. Tu as cédé aux pressions de l'audimat, on sait, les audiences, tout ça, c'est dur, ça pèse sur toi. Remplaçant Jean-Louis Tour, tu veux donner le meilleur de toi-même. Mais malheureusement, tu as flanché au moment d'évoquer la victoire du PSG sur Saint-Etienne, 3-2, trop de pression et ta langue à fourcher.
Il marque, le contrôle il est bon, le choix il est bon. C'est vraiment,
on a l'impression quand même qu'on est en train de dire que le PSG qui passe quand même par le trou de la souris là, avec ce but dans la Ligue. PSG qui passe par le trou de la souris. Je m'excuse auprès de toutes les souris qui nous écoutent.
Ah, il aime bien le petit trou de la souris.
C'est pas bon, je sais.
Il est bien connu, le petit trou de la souris.
J'ai eu une semaine parfaite et on me sort juste la phrase où je me suis planté. Ah oui, malheureusement. Mais c'est ça les stars, hein, Jérôme.
Le trou de la souris.
Il rate un contrôle dans un match, il prend 7 au lieu d'avoir 8 et on retiendra que ça. Mais Jérôme, toi qui n'as jamais flanché dans les grands matchs à pression, je dis, tu as un petit lapsus au moment des
votes.
Au moment d'évoquer Lyon-Monaco.
Et on s'en fout du style. Si Lyon gagne la Coupe de France, on se souviendra pas du parcours en quart de finale qu'ils ont éliminé de telle façon, à moins que ça soit un match hippique et que ça donne un 6-5.
Oui.
Le match hippique.
C'est sûr que le match hippique de Monaco est très connu.
Mais t'es tombé dans le monde des courses, à mon avis, Jérôme, c'est sûr.
Je me voyais à Cagnes-sur-Mer. Quand j'étais à Monaco, j'allais toujours à Cagnes.
Avec Charlie Loubet et Jeanne Mauvaise.
Ah oui. Il y en avait des belles. Là-bas.
Alors on termine avec le plus grand. C'est un peu long. Roland Courbis, attention, mais ça vaut le coup. C'était dans le podcast After PSG. Grâce à Roland, je n'ai plus compris quel âge j'avais ni quelle était ma date de naissance. Grâce à Gilbert Bribois et Loïc Tanzi qui parlent de la prolongation de Neymar. Petit point pour nos auditeurs. Neymar est né en février 1992. Il vient d'avoir 29 ans. À la fin de son contrat en 2024, il aura quel âge ? La réponse de Roland Courbis.
Il aura 32 ans en 2024.
Combien ? 32. Il restera encore 2 ans.
Vous vous êtes un petit peu trompé.
Ah, 32, 2026.
Il va avoir 30 ans.
Oui.
Eh bien, s'il prolonge de 4 ans.
Il vient d'avoir 29.
Donc il aura 34.
Il vient d'avoir 29, il est sur 30, là. Donc il va avoir 30 ans, on est d'accord ?
Oui.
Donc il prolonge.
Donc en 2024, il a 33.
23 ans.
Mais non, il a un an de contrat, il prolonge de 4 ans. Vous me rajoutez 5 à,
oui, donc
à
2026.
30 ans, quand même.
Tu parles de 2026, alors.
Hein ? Tu parles de 2026, la fin de son contrat.
On comprend rien, et c'est pas terminé. C'est écoutez dur. La suite.
Bon, chipote. Non. Je veux pas chipoter. Si j'ai tort, j'ai tort. Neymar va sur 30 ans.
Oui.
D'accord. Il a un an de contrat encore sur Paris Saint-Germain.
Donc, il aura 30 ans.
Ça veut dire qu'il aura 31 ans.
Il aura 30. On me sera dans l'année de ses 31 ans, mais il aura 30.
En fait, si tu veux, il aura 34 ans à la fin de son contrat au PSG. C'est ça que tu veux dire?
Non.
Non.
tu rajoutes 4 ans à 31, pour moi ça fait 35.
Oui, donc il aura 35 ans à la fin de son contrat.
Tu comptes la 31e année, pas l'âge effectif.
Quand Roland tout on est, on a déjà un an. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux chiffres. Il a 29 ans, on calcule qu'en 2024, il aura 32. Non, on arrive à 31, à la dernière lame de coach.
Il avait gagné un an quand même.
Tu vois ?
Mais attends, quand c'est ton anniversaire,
ouais.
Le lendemain de ton anniversaire, tu as déjà bouffé un jour de l'année d'après.
Ouais, mais quand c'est ton anniversaire et que tu fêtes tes 25 ans, t'as pas 26 ans le lendemain.
Mais Neymar, il va sur 30 ans, il a déjà attaqué sa 30e année.
Roland, c'est quoi ta raison ?
Il a 30 ans, moins 6 mois.
Bravo Gilbert d'avoir abandonné.
Ah non, mais c'est tout est dans le podcast. Ils ont tout gardé.
Ouais, ils ont tout gardé.
Ah ouais, d'accord.
Il est bon.
Ah ouais, c'est énorme.
Et jusqu'au bout, hein, il va te.
Ah, mais Roland, il te dit. Ah mais si j'ai tort. Mais en fait quand il te dit ça, il dit non, en fait j'ai raison, oui. Et je vais te prouver que tu as tort.
J'ai peut-être tort, mais j'ai pas forcément. Non, non, j'ai pas forcément raison. J'ai pas forcément raison.
Ouais. Oh, bon,
mais tu as peut-être tort.
Mais tu as peut-être quel âge j'ai. Plus personne ne sait quel âge il a, je crois, autour de la table. Là. Bon, pas bref. Merci Roland.
Et c'est étonnant que les plus vieux parlent comme ça. En général, ils essayent de. Non, mais c'est vrai, ils essayent de gagner un an.
Ah oui.
Là, c'est sa réflexion, il perd un an, Roland.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on bouffe un jour, effectivement.
Donc Jean-Michel, par exemple, n'aurait pas 74, aurait 75 ans aujourd'hui.
Non, je n'aurais pas 73, j'aurais 74.
Ah oui, mince.
Oh, mince. Mais à la fin de son contrat, il a combien ?
Quand même, c'est ça,
t'as combien à la fin de ton contrat, Captain ?
À la fin de mon contrat.
À la fin de son contrat.
Donc là, si chaque fois que je pars à la retraite,
c'est fin juin.
Je ne pars pas à la retraite.
Oui. C'est quand ton anniversaire.
Je risque de vous emmerder au moment. Je vous l'ai dit. Hein.
Merci Morgane. Bon, en tout cas. Merci
bravo Morgane. Bravo.
Bon week-end à toi.
Morgane, c'est mon idole. C'est mon idole.
Merci.
Bravo.
Le multiplex de Rotten régale pour lancer la 34e journée de Ligue 1. C'est tout de suite. C'est à ne pas rater. On embrasse coach, bien sûr. Restez bien avec nous. À tout de suite.
RMC 18h20. Rotten Régal.